Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Horatio Spafford was a well-known lawyer and businessman in Chicago in the 1860s, where he lived with his wife Anna and their five children.
Donc, c'est la biographie de Horatio Spafford. C'est un homme d'affaires prospère, un développeur immobilier. Je peux-tu avoir de la, du son ici?
However, in 1870,
plusieurs événements sont arrivés dans sa vie qui ont bouleversé son monde. Leur seul fils est mort dans un feu. Il avait 3 ou 4 ans. Un an plus tard, alors qu'ils vivaient encore le deuil de leur fils. Ah, là, il y a eu un incendie l'année d'après et tous ses investissements ont été envolés en fumée.
Aware of the toll these disasters had taken on his family, Horatio decided to take his wife and four daughters on a holiday to England.
Alors, pour se reposer un petit peu de toutes ces tragédies, il est allé voir une croisade de Moody en Angleterre où il partait en bateau. Horatio a dû rester parce qu'il y avait un business à faire. Il a envoyé sa femme en vacances. Il a persuadé sa femme de continuer et il allait la rejoindre. Alors, la famille s'est en allée à Londres, alors que lui, il est resté aux États-Unis. Plusieurs jours plus tard, il a reçu une nouvelle dévastante. Alors, il y a eu une collision entre deux navires. 12 personnes ont survécu. Il y a 200 quelques passagers qui sont morts. C'était le pire désastre naval. Ensuite, ça a été le Titanic, en 40 ans plus tard. Le jour d'après, il reçut un télégramme. Ces 6 mots étaient écrits. J'ai survécu seul. Qu'est-ce que je devrais faire? Les 4 filles ont péri. Après avoir entendu, il est embarqué dans le prochain navire pour aller à Londres, rejoindre sa femme. Alors,
a careful reckoning has been made, he said, and I believe we are now passing the very place where the Ville du Havre
Le capitaine l'a appelé sur le pont et lui a dit, c'est à l'endroit précis où la collision a eu lieu. C'était là. Alors qu'il regardait dans la tombe de l'océan, il a écrit le grand hymne, It is well with my soul. Cette chanson-là que vous entendez souvent. Ça va aller avec mon âme. C'est ça que les paroles du chant disent. On va les lire tantôt, les paroles. C'est toute une vidéo, toute une histoire, hein? Je vais vous lire les paroles de ce chant-là. « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et pour la vie, dans les jours mauvais, et de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie, it is well. » Ensuite, le refrain, c'est « Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. » Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos céleste. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place après les travaux, les combats, la douleur. À jamais, je pourrai voir ta face. C'est dur de... Ouf! C'est dur d'imaginer qu'est-ce que ça serait, tu sais, si ma femme m'enverrait un télégramme puis me dirait que je suis à Londres, qu'est-ce que je fais, tu sais. Et je pense à cette histoire-là, puis je veux parler de la persévérance. La persévérance, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite, que ce qu'il avait commencé en nous, il l'accomplirait. Comment un gars peut écrire une chanson comme ça quand il a tout perdu? À moins que le Saint-Esprit en lui et la promesse que Dieu nous a faite, qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin, soit efficace. Je veux parler de la persévérance aujourd'hui, mais le premier sujet que je veux vous parler, c'est la sécurité éternelle, ce sublime repos qui est à nous en Jésus-Christ. Cette assurance qu'on a, on n'a pas juste la sécurité éternelle, on a l'assurance éternelle. La sécurité, c'est que notre salut est garanti. L'assurance, c'est qu'on le sait qu'il est garanti. Et je veux parler de la sécurité éternelle, mais je veux aussi parler de l'assurance qu'on a de savoir que le jour qu'on va mourir, on le sait maintenant, que si on meurt aujourd'hui, on va au ciel avec Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont cette assurance-là nécessairement. J'ai écouté un message puis il disait que c'était un des sujets les plus googlés parmi les chrétiens. Comment avoir la certitude de son salut? Il y a un sondage de l'Institut Barna de statistiques qui a fait des statistiques que 8 % des chrétiens se posent la question s'ils sont vraiment sauvés. Dans le monde évangélique, il y a, on va regarder à la prochaine acétate, il y a deux grands courants de croyances concernant la vie éternelle. La première, c'est, tu peux aller à la prochaine, vas-y encore, continue. OK, on recule. OK, vous avez la vie éternelle, mais vous pouvez la perdre. Vous l'avez, mais vous pouvez la perdre. Et vous avez la vie éternelle, et votre persévérance en est une évidence. C'est parmi les évangéliques. On aurait pu ajouter aussi dans l'Église plus traditionnelle du Québec. Vous pouvez travailler à avoir la vie éternelle. Vous pouvez gagner votre ciel. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais surtout travailler sur le deuxième point ici. Parce que le premier, il y a tellement de versets qu'on va voir durant mes prochains messages que vous allez être comme noyés de vérités bibliques qui vous disent que vous ne pouvez pas perdre ce qui vous a été donné une fois pour toutes. Ça va être facile. Par contre, il y a 20 à 25 versets dans la Bible qui nous montrent que si on ne persévère pas, on est peut-être pas sauvé, dans le fond. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, vous doutez de votre salut. Ça vous arrive-tu des fois, vous en doutez, sûrement quand votre marche n'est pas à la hauteur? Sûrement, vous, des fois, vous doutez de vos rendements, puis que vous regardez votre vie, puis vous dites, ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Ça arrive aux plus grands hommes de Dieu, n'ayez pas honte de ça. Et le but de cette série, ça va être de nous donner ensemble de l'assurance, pas de se croire, mais de voir que Dieu a mis clairement où ce qu'on y en est avec nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez eu vos premières rencontres amoureuses, vous ne saviez pas si l'autre était sur la même page que vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez avoir en anglais, ils disent DTR, Determine the Relationship, déterminer la relation, juste pour être sûr que l'autre, ce n'est pas juste comme, il n'est pas juste ami, il a comme un intérêt envers toi. Déterminer la relation, c'est ce qu'on a besoin de faire avec Dieu. On a besoin de s'asseoir puis de savoir qu'est-ce que Dieu dit de notre relation avec lui. Est-ce qu'il veut nous laisser dans le doute, en suspens, jusqu'à temps qu'on meure, puis là, on va avoir la certitude, de, finalement, juste mais qu'on le voit, qu'il nous a acceptés dans son bien-aimé, où il veut qu'on le soit certain et qu'on sache qu'on soit sur la même page que lui là-dessus. Je crois que la Bible a été écrite afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle, pas que nous aurons, mais que nous avons la vie éternelle maintenant. Il veut qu'on soit certain de où ce qui est par rapport à nous. La confession de Westminster, prochaine acétate, prochaine acétate. OK, reviens en arrière. Ici, j'ai appelé la série « La persévérance des saints exposés », OK? Et mon sous-titre, c'est « La base de l'insécurité éternelle ». Pourquoi? C'est impossible avec la doctrine de la persévérance des saints qui vient de Calvin, c'est impossible d'être en repos concernant notre vie éternelle. C'est impossible. Okay? On va regarder la confession de Westminster. Qu'est-ce qu'elle dit, cette confession-là? Elle est écrite en 1646 environ. Ça a été écrit pour toutes les églises d'Angleterre, des églises réformées issues du mouvement calviniste. On regarde. Ceux que Dieu a acceptés dans son bien-aimé, appelés efficacement et sanctifiés par le Saint-Esprit, ne peuvent pas totalement ni finalement tomber dans l'état de grâce, mais vont assurément persévérer jusqu'à la fin et être éternellement sauvés. Et alors que je voulais faire une série sur la sécurité éternelle, je me rappelle souvent dans mes discussions, lorsque je lis sur Internet, tout ça, à chaque fois qu'on parle de sécurité éternelle, les gens nous associent à la doctrine de la prédestination. Et on va comprendre pourquoi. Parce que dans le fond, dans la doctrine calviniste, on nous dit que Dieu a choisi certains pour être sauvés. Ils ne pouvaient pas répondre, donc il leur a donné une attraction irrésistible pour les attirer jusqu'à lui, et c'est ce qu'on appelle accepter, appeler efficacement. Ça veut juste dire qu'ils ont appelé et ils n'ont pas eu le choix de venir. Donc, les élus, il les a choisis, il les a attirés à lui d'une force irrésistible à lui parce qu'ils ne pouvaient pas venir à lui. Il a mis ça en eux, une attraction pour les attirer. Il est mort que pour eux. OK? Et il va donc persévérer en eux jusqu'à la fin. Donc, puisque c'est l'œuvre du début, avant même qu'ils soient nés, ces personnes-là, c'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, leur salut est garanti parce que Dieu contrôle tous les aspects de leur vie éternelle. Il n'y a aucune chance de douter puis de sortir de cet état-là. Et si tu t'éloignes, regardez le mot, totalement est important et finalement est important. Ça veut dire que tu vas peut-être t'éloigner, mais tu ne t'éloigneras pas complètement du Seigneur. Tu vas revenir. Et finalement, à la fin de ta vie, lorsque tu vas faire face à Jésus, tu vas être revenu, ça va démontrer que tu es un élu parce que tu as continué jusqu'à la fin. Finalement est important, totalement est important aussi dans cette doctrine-là. Comment être en repos avec cette vérité-là? C'est ce que je me propose de faire dans la première partie de mon message. Dans la deuxième partie de mon message, on va commencer à regarder les 25 versets, mais on en a regardé un, ça va être 1 Corinthiens chapitre 15. Dans les prochains dimanches, on va regarder d'autres versets que quand tu lis ça, tu dis, « Mon ami, est-ce que quelqu'un peut vraiment être sûr qu'il peut être sauvé? » Alors, plus qu'on va regarder, on va commencer cette série-là en regardant les passages difficiles qui nous font penser que si on ne persévère pas, on n'a peut-être jamais été sauvé. On va comme nettoyer la place, on peut dire, en regardant les versets difficiles. Après ça, si Dieu le permet, dans les autres dimanches, on va regarder les versets que c'est gros comme une maison, que tu ne peux pas perdre ton salut. Okay? Puis on va donc se mettre à la page avec Jésus concernant la doctrine de la sécurité et de l'assurance de la vie éternelle. Prochaine acétate. Donc, Tout le monde s'entend pour dire que ceux qui persévèrent sont sauvés. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Que tu sois calviniste, arménien, plus du côté charismatique, les églises de la Pentecôte, tout ça, on est tous d'accord, ceux qui persévèrent, ils sont sauvés. Prochain acétate. Mais tous ne s'entendent pas, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne persévèrent pas? Et c'est là que le bas blesse, c'est là où on ne s'entend pas. Prochain acétate. Sur le site de Desiring God d'un homme qui s'appelle John Piper, John Piper, c'est un des porte-voix du mouvement calviniste présentement aux États-Unis. Regardez les quatre sous-titres de sa page avec les 20-25 versets que je vous parlais qui sont classés en trois ou quatre catégories. Premièrement, nous devons persévérer dans la foi pour être finalement sauvés. Vous vous rappelez du mot « finalement » tantôt? Qu'est-ce que ça voulait dire « finalement » à la fin de ta vie? À la fin de ton pèlerinage, tu vas être finalement sauvé. Okay? Tu dois persévérer dans la foi pour être finalement sauvé. Pas tout de suite, finalement sauvé, plus tard. L'obéissance ou la sainteté qui vient de la foi est nécessaire pour le salut final. Ton obéissance puis ta marche avec Jésus, OK, dans la sainteté vient de ta foi, qui vient de ta foi, est nécessaire pour le salut final. Ensuite, ceux que Dieu a justifiés seront gardés par Dieu pour le salut final. On appelle ça la doctrine de la préservation, mais c'est ils la mettent dedans. Puis l'autre, s'éloigner de la foi et de la sainteté montre que nous n'avons jamais appartenu à Jésus-Christ. Au moins, quand tu crois à la perte du salut, tu l'as eu pour un bout de temps. Puis pendant que tu l'as, tu ne doutes pas que tu l'as perdu, puisque tu es proche du Seigneur, ça marche, tu sais. Fait que tu l'as pendant cette période-là. Mais celui qui croit à la doctrine de la persévérance des saints, lui, il ne peut jamais être sûr qu'il l'a eu un instant, parce que c'est à la fin de sa vie, s'il a marché dans la persévérance, l'obéissance et la sainteté qui vient avec son salut, que là, il va pouvoir avoir la certitude, parce qu'il va être devant Jésus, puis on va lui dire que tu as passé par le standard de la persévérance. Prochain clic. Est-ce que ça se vit, ça? Est-ce que ça se vit, cette vérité-là, ou ce mensonge-là? Quel est le barème de la persévérance? Est-ce que c'est quoi à persévérer? C'est-tu lire sa Bible 15 minutes par jour, puis confesser ses péchés rapidement, puis plus assez de péchés? Combien de péchés il faut plus que je fasse? C'est quoi le barème de acceptable dans la persévérance des saints? Est-ce que je dois produire ça ou c'est Dieu qui le fait en moi? Comment je sais que Dieu a commencé à le faire en moi? Est-ce que je peux choisir de le faire? Non, je ne peux pas. Selon la doctrine de la persévérance des saints, Dieu s'est choisi des gens et il va faire en eux la persévérance. Donc, je ne sais même pas si Dieu a commencé ça en moi. Puisque ça ne dépend pas de moi, qui vous dit, qui me dit que je suis un élu, que je fais partie des sauvés? Vous êtes peut-être tous perdus puis Dieu vous fait croire que vous êtes sauvés. Je vais vous montrer pourquoi. Je ne peux pas être sûr maintenant que je suis sauvé. C'est juste mais que je fasse face à Jésus-Christ que je vais finalement savoir si j'ai eu la persévérance des saints qui m'a été donnée comme un cadeau. Je dois attendre à l'évaluation finale. Pas de repos pour mon âme. Prochain point. Justement, M. R.T. Kendall, qui est pasteur et qui a étudié l'histoire de la Réforme, qui est calviniste lui-même, théologien, pasteur de renom en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pasteur de Westminster Chapel à Londres, là où il y a eu le Westminster, tu sais, la confession de Westminster, là. Lui a été pasteur à cette église-là. Il est auteur de plusieurs livres sur l'histoire de l'Église et il a écrit sur les puritains qui étaient des stricts calvinistes et il a dit ceci. Prochaine acétate. Pratiquement tous les grands théologiens puritains ont été sujets à de grands doutes allant jusqu'au désespoir alors qu'ils étaient sur leur lit de mort et qu'ils réalisaient que leur vie ne leur donnait pas l'évidence parfaite qu'ils étaient des élus. Pratiquement tous les grands théologiens sur leur lit de mort, il n'y avait pas l'évidence qui était née des élus. Aucun repos pour mon âme.
à cause de la doctrine de la persévérance des saints. On continue. Calvin dans son institution, donc on parle souvent de Calvin ici. On aime beaucoup parler de Calvin. Je pense vraiment que l'Église a besoin d'être réformée de la réforme. La réforme, Calvin, qui est un des réformateurs, a dit, « L'expérience montre que les réprouvés, ça c'est vous et moi, et tous ceux qui sont perdus, mais peut-être que vous êtes un élu, là. Selon lui, il y en a peut-être parmi vous qui sont des élus. Écoutez bien, « L'expérience montre que les réprouvés sont parfois affectés d'une manière similaire aux élus. » Et que dans leur propre jugement, il n'y a pas de différence entre eux et les élus. Mais le Seigneur, plutôt que de les convaincre de quoi? De péché, qui ont besoin d'être sauvés. Mais le Seigneur, plutôt que de les convaincre et de les laisser sans excuse, place dans leur pensée un tel sentiment de sa bonté qui peut être senti sans l'esprit d'adoption. Ça veut dire, selon la théologie de Calvin, vous pouvez avoir été touché par Dieu, avoir passé par ce qui ressemble à la nouvelle naissance, avoir eu le cœur touché par la présence du Saint-Esprit, avoir vu le salut, mais pas l'avoir obtenu. Et Dieu ne vous convainc pas que vous allez venir en jugement, vous avez besoin d'être sauvé. Il vous laisse croire que vous êtes sauvé, mais vous êtes des damnés. C'est quelque chose, ça. Quelque chose. Dieu, au lieu de me convaincre de péché, me laisse croire que je l'ai pour ensuite me condamner. Comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Hein? Eh bien, Luther, okay, qu'on dit toujours, ah, la réforme, tu sais, il nous a amené le salut par la foi. Luther a dit que Dieu se moquait des païens en les invitant d'une invitation qu'ils ne peuvent pas répondre. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, quelle assurance que vous avez quand vous entendez ça? Un auteur contemporain, Charles Hodge, qui a écrit un livre, un autre Hodge tantôt que je vais parler. Charles Hodge, il dit, « Ni les membres d'une église, ni les élus ne peuvent être sauvés à moins qu'ils ne persévèrent dans la sainteté, et ils ne peuvent persévérer dans la sainteté que s'ils continuent à veiller et à y mettre des efforts. » Et on se rapproche du catholicisme. Non? Vous ne trouvez pas? Le catholique, lui, en toute bonne foi, il essaie de gagner son ciel, puis le protestant réformé, il essaie de le rembourser à crédit. On fait juste les œuvres d'un autre côté du salut, si on peut dire. En passant, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas en train de défaire tout ce qui existe autour. Je suis en train de regarder le poison dans le pot et de voir qu'est-ce qu'on prend quand des fois on a comme 300-400 ans d'historique là, de la réforme qui influence veut pas notre façon de croire et d'approcher les Écritures. Et c'est de ça. C'est pour notre bien, c'est pas pour les autres qui le fait, c'est pour notre bien ici. Un auteur des années 1900, mais qui a été réédité dans les années 70 et 2000, dit ceci. Lecteur ou auditeur, s'il y a une hésitation dans votre obéissance, vous êtes en destination de l'enfer. Si dans ta tête, tu médites juste de faire le mal ou que tu as pensé à, tu ne sais pas si tu devrais obéir, faire le bien que tu devrais faire, mais que tu ne le fais pas, tu es en destination de l'enfer. Si tu vis l'expérience que Paul raconte dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Puis le bien que je voudrais faire, je ne le fais même pas. C'est l'expérience de Paul journalière. C'est la mienne aussi. Je suis sur le chemin de l'enfer parce que je ne suis pas en train de persévérer comme je devrais persévérer. La sainteté dans cette vie, disait Pink, fait tellement partie de notre salut qu'elle est le moyen, pas le résultat du salut. Elle est le moyen nécessaire par lequel nous sommes capables de devenir participants à l'héritage des saints dans la gloire. Alors, juste la pensée de désobéir me conduit à l'enfer. En passant, c'est pas ça qu'on enseigne. Si vous nous visitez aujourd'hui, c'est pas ça qu'on enseigne. Okay? Si vous nous écoutez sur Internet, c'est pas ça qu'on enseigne. C'est ce qu'on expose. Le nom du message, c'est la doctrine, la persévérance des saints exposée partie 1. Zane Hodge, qui a écrit un livre, c'est lui le Hodge qui a écrit, il a écrit un livre qui c'est l'Évangile en feu. L'Évangile dans un siège, là, tu sais, comme une ville qui est cernée par une armée. Là. Le résultat de cette théologie puritaine est désastreux, puisque l'authenticité de la foi d'un homme ne peut être déterminée que par la vie qu'elle produit. L'assurance du salut est impossible au moment du salut. Il dit, c'est désastreux pour deux choses. Tu ne peux la valider que par le type de vie que la personne produit. Puis c'est impossible quand quelqu'un a accepté le Seigneur, tu ne peux pas lui dire qu'il est sauvé. Prochaine à 7 ans. Ce qu'on va faire, OK, regardez, on a vu les deux options. Vous avez la vie éternelle, mais vous pouvez la perdre. Vous avez la vie éternelle et votre persévérance en est une évidence. Mais heureusement, il y a une autre option et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans les prochains messages. Vous avez la vie éternelle parce que la parole de Dieu le confirme. J'ai la vie éternelle parce que Dieu me le dit, point. Là, pas parce que je produis des fruits, pas parce que j'ai changé, pas parce que Dieu m'a dit dans 1 Jean 5,13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils. Parce que Dieu a fait des promesses et qu'il est impossible que Dieu mente, j'ai la vie éternelle. Mais ça va être tout au long des différents messages qu'on va parler qui va nous montrer ça. Mais je veux amener surtout cette distinction-là et votre discipline et votre discipline en évidence, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain verset. On y va. 1 Corinthiens chapitre 15. À vos Bibles. Ça a l'air d'un biberon. Hein? Ça fait le bruit d'un biberon aussi. 1 Corinthiens chapitre 15. OK. Ça, c'est un des versets que tu peux faire apparaître au prochain clic. Que nous devons, qui vient comme confirmer, c'est un des versets qu'on utilise pour confirmer qu'on doit persévérer dans la foi pour être finalement sauvé. On y va. Le motto de cette croyance-là, c'est « Ta persévérance va te donner de l'assurance. » Plus que tu persévères, plus tu gardes ce que tu as entendu, plus tu marches dans ce que tu as entendu, plus que tu es un disciple, dans le fond, plus que tu vas avoir de l'assurance que tu es vraiment un sauvé. On lit le verset ensemble. Verset 1 à verset 2. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Qu'est-ce que ce verset paraît dire? Prochain clic. Le salut dépend d'avoir, premièrement. Reçu, deuxièmement, persévéré, ensuite, retenu le message, sans quoi croire n'aurait rien servi. Hein? On dirait que c'est ça que le verset dit. Vous l'avez reçu, vous l'avez entendu, vous l'avez retenu, puis si, après ça il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sinon, vous avez cru tout le temps pour rien, parce que si vous ne l'avez pas retenu, à la fin de votre vie, vous n'avez pas resté dans ce message-là, vous l'avez perdu, vous n'avez pas persévéré, vous n'êtes pas sauvé. C'est ça que ça ressemble. Mais est-ce que c'est ça que le passage dit? Regardons un peu plus proche. Regardez ici, il y a des petits mots soulignés en orange. Là, ici, vous auriez cru en vain. En vain, c'est eiké. Et ça implique une foi non affermie, sans considération pour les faits. Donc, vous auriez cru sans considérer les faits. Maintenant, regardons le contexte du chapitre 15. Le contexte du chapitre 15 nous indique que ce qui est remis en question n'est pas la foi, mais la vérité à propos de la résurrection. Tout le chapitre 15, si vous lisez, vous allez voir ça autrement ça, ça autrement ça, ça autrement ça. On va le voir ensemble. Et vous allez voir que ce qui est mis en question dans ce passage-là, c'est soit, tu peux avancer, l'Évangile est vrai, puis votre foi vous sauve, ou l'Évangile n'est pas vrai et votre foi est vaine. Fait apparaître les versets. Donc, quand vous regardez le contexte du passage, vous allez voir, c'est un passage qui est difficile à lire, mais quand vous regardez le chapitre, les choses s'éclaircissent bien. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. En passant, ce n'est pas vous avez persévéré, c'est dans lequel vous vous tenez. Okay? Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez ou si vous le tenez, tenir quelque chose, tel que je vous l'ai annoncé. OK. Ça, vous êtes sauvés si vous avez ce que je vous ai enseigné, finalement. OK? Puis que vous le gardez. OK? Ensuite. Autrement, pas si vous ne l'avez retenu pas. C'est autrement, si l'Évangile, si ce n'est pas vrai ce qu'on vous a dit, si l'Évangile qu'on vous a donné vous sauve, c'est autrement que ça, ça serait que l'Évangile n'est pas vrai, puis votre foi est vaine. C'est les deux options qui sont. Et tout le long du passage de 1 Corinthiens 15, on voit ce parallélisme-là. C'est deux choses qui sont comparées. Si l'Évangile est vrai, bien, vous êtes sauvés. Si l'Évangile n'est pas vrai, vous n'êtes pas sauvés, puis vous avez cru pour rien. Prochain verset. Vous auriez eu une foi non affermie, sans considération pour les faits. Donc, si l'Évangile n'est pas vrai, vous avez cru, comment on pourrait dire ça, quelqu'un qui croit une lubie? Hein? Une lubie, c'est comme de se faire un scénario, croire une histoire qui n'est pas vraie. Donc, si l'Évangile n'est pas vrai, votre foi aurait été une lubie. OK, j'ai appris ce mot-là hier, fait que là, je l'ai essayé. OK, on va faire la péricope du verset. Vous ne pensiez pas que dimanche, on ferait de l'herméneutique, mais c'est pas compliqué. J'aurais pu dire « regardons tout autour du verset okay? ». J'ai dit la péricope, « péri » veut dire « autour », « cop » regarder, « regarder autour ». OK, fait que c'est pas de la grosse… Ça a été dur à étudier, mais normalement, ça devrait être assez facile. Ça devrait être découpé en morceaux, puis facilement assimilable quand même. Parce qu'on est dimanche, puis l'idée, c'est pas de faire de la grosse travail de tête, c'est de vous donner le fruit de ce que je me suis cassé la tête avec l'aide de Pasteur Patrice. Donc, le mot « en vain », premièrement, il est-tu utilisé ailleurs dans le chapitre? Oui, il est utilisé au verset 2, au verset 14, au verset 17 et au verset 58. Regardons le prochain verset. « Si Christ n'est pas ressuscité », regarde bien, Paul il dit « si Christ n'est pas ressuscité », là il parle en lui. « Moi, en tant qu'apôtre, je ne suis pas sauvé parce que ma foi est vaine, ma prédication est vaine, je suis un faux témoin, un menteur, parce que je dis que Dieu l'a ressuscité, mais il n'est pas ressuscité, donc moi, je suis un menteur. Puis, on est les plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce qu'on croit tous que nos péchés ont été enlevés, puis quand on va mourir, on n'ira pas en jugement, on va aller au ciel avec Dieu, mais en fait, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, et ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle avec Dieu. C'est un peu toute la logique qui développe au verset 14 jusqu'à 17, 19. Il dit, on est les plus malheureux des hommes. On est là, nous autres, on croit des histoires. On a une foi vide ou vaine, une foi qui ne croit pas des faits établis, une foi qui veut croire que le ciel existe, mais dans le fond, Jésus n'est pas ressuscité. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité, les corps de tous les hommes ne pourront pas ressusciter non plus. Okay? C'est ça ici. Ensuite, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, là, il vient de passer de moi à vous. Hein? Puis au premier, il disait votre foi, vous aurez cru en vain. Regarde au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, puis en passant, grand-père et grand-mère qui sont morts, qui ont cru la même affaire que toi, là, eh bien, tu ne les reverras pas parce qu'ils sont encore dans leurs péchés, puis ils sont condamnés, puis ils ne pourront pas aller au ciel non plus. C'est un peu la logique de tout ce qu'il fait. Et après le verset 19, puis en s'en allant jusqu'au verset 58, là, il explique toute la façon que les gens vont ressusciter d'entre les morts et tout ça. Puis il dit, il y en a parmi vous qui disent qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Et c'est là qu'il amène toute cette argumentation-là. Puis là, il explique l'ordre de la qui va ressusciter en premier, puis les trompettes. Puis là, bien, ceux qui sont morts vont ressusciter en premier, puis ensuite, nous, on va les rejoindre, puis tout ça. Puis au verset 58, après avoir dit tout ça, ça fait exactement l'effet que je veux que ça fasse avec mon message. Ça vient sécuriser notre cœur. Regarde ce qu'il vient de dire. Conclusion. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, progressant, persévérant. Continue, lâche pas la patate, OK? Parce que tu sais que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le mot vain est utilisé encore une fois. C'est pas vide. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur, puis peut-être tu ne ressusciteras pas. Non, tout ce que tu vas avoir fait, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as manifesté, puis le travail que tu as fait pour lui. Puis un jour, on va tout avoir une résurrection, OK? Et puis on va avoir des récompenses en plus. Et donc, ça décourageait les gens de savoir qu'il n'y aurait pas de résurrection. Et Paul a écrit 1 Corinthiens 15 pour dire non. S'il n'y a pas de résurrection, là, on est des menteurs. T'as cru en rien, t'as cru pour rien. Moi aussi, j'ai cru pour rien. Puis Paul dit, pourquoi est-ce que je suis allé me faire battre à Jérusalem? Puis pourquoi je suis allé? Puis là, il commence à raconter tous les tourments, les pocs qui montent ses bleus. Pourquoi tu penses que je suis allé faire? Pourquoi tu penses ça? Puis pourquoi? Là, il monte tous ces bobos, là. Puis il dit, pourquoi tu penses que je souffre toutes ces choses-là? Je souffre ces choses-là parce que c'est vrai. C'est pas en vain. C'est pas en vain que je vis toutes ces choses-là, Paul. Puis là, il dit, garde, vous ne travaillerez pas non plus en vain. Fait que persévérez parce que il va avoir une résurrection. Fait que c'est quasiment le contraire de la. Quand tu regardes comme pour le passage, je ne sais pas, hey, vous avez cru. Puis si vous arrêtez de croire à la fin, là, vous allez perdre tout. C'est pas ça que le contexte dit du tout. Donc le verset 1 et 2, là, on peut déjà faire un petit peu de ménage. Mais peut-être que vous voulez avoir le cœur net. Fait que quand on fait une péricope, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout autour du verset, puis on élargit, on étire la peau un peu plus, puis on s'en va dans un chapitre un peu plus à gauche puis à droite. Ce qu'on va faire, on va aller dans le 1 Corinthiens, puis on va aller voir un petit peu plus loin, prochaine acétate. Tu peux faire avancer. OK. Donc, on relit le passage, juste pour clarifier ce qu'on vient de dire dans le chapitre. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré ou dans lequel vous vous tenez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ici, ce n'est pas nécessairement de le retenir, c'est que vous l'avez pris, puis vous vivez encore dans les effets de l'avoir pris. Okay? Vous le retenez comme je vous l'ai annoncé. Donc, vous avez entendu le salut finalement, puis vous l'avez compris comme ça, que Jésus était mort, qu'il était venu, qu'il était ressuscité, qu'il est mort pour votre justification, etc. Vous êtes sauvés. Autrement, OK? Si la réalité est autrement, ça veut dire Jésus-Christ, c'est pas qui dit qui est, l'œuvre qu'il a faite n'est pas vraie ou ben non, que sa résurrection n'est pas vraie. Autrement, si c'est autre chose, ben vous auriez cru en vain, c'est-à-dire dans une foi qui n'est pas affermie dans les faits. Vous auriez cru comme une histoire d'enfant, une histoire d'un con. Okay? Alors, pour avoir le cœur net, puis alors qu'on va atterrir tranquillement vers une conclusion, on va regarder la persévérance et l'assurance dans tout le livre. Donc, quand vous dites, vous avez un passage ténébreux ou un passage difficile à comprendre, la lumière des passages plus clairs autour va nous donner de la lumière sur notre passage un peu plus sombre. On va faire la ligne du temps d'un Corinthiens. Vas-y. OK. On est au chapitre 15. Je pense qu'il y a 16 chapitres. On va reculer au chapitre 11. Et qu'est-ce qu'on voit au chapitre 11? Paul dit, il y a des gens qui prennent la Sainte-Seine puis qui vivent une vie double. Ils ne jugent pas leur péché, puis ils mangent le repas du Seigneur, puis ils ne se sont pas jugés eux-mêmes. Et Paul va dire, il y en a plusieurs qui sont malades et il y a un grand nombre qui sont morts parce qu'ils ont négligé le repas du Seigneur. Quand je prends le repas du Seigneur, je dis à Jésus-Christ, à moi-même, aux anges puis au monde, que je ne m'appartiens plus moi-même, que j'appartiens à celui qui m'a racheté. Et donc, c'est sacré le repas du Seigneur. On va le prendre aujourd'hui. Je remercie le Seigneur que mon enseignement tombe le jour du repas du Seigneur. C'est sacré. Ça ne veut pas dire sans péché. Ça veut dire mise à jour avec le Seigneur, puis reconnaissant sa propriété sur ma vie. Mais les gens, ils n'avaient pas mangé, puis ils disaient, hey, on ne mangera pas. Il y a du pain à l'église, donc on va se faire un lunch sur le bras de l'église. Puis là, il y avait du désordre comme ça dans l'Église. Puis Paul dit, il y en a beaucoup qui sont morts dans l'Église à cause des choses comme ça. Hey, on n'est pas sous l'air de la grâce, oui, mais Jésus-Christ, il vise à nous transformer en son image, puis il ne veut pas qu'on soit des menteurs ou des hypocrites. Fait que vous dites, Jean-Sébastien, en quoi est-ce que ça nous donne de l'assurance? Ça nous donne une incroyable assurance, parce que si Dieu nous punit maintenant, il nous garde la vie éternelle. Et là, ça vient mettre une sécurité. OK, j'ai un père qui a accès à mes fesses. Si je marche n'importe comment, il va me corriger. Mais je suis son enfant, puis ça veut dire que je suis son enfant, puis je vais le rester son enfant. Je ne perdrai pas mon salut. Je vais être corrigé par lui. Ensuite, mais quand nous sommes jugés, Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Hé, c'est rassurant. Ah, là, je commence à comprendre que mes œuvres, ce n'est pas si ça prouve que je suis sauvé ou pas. Mes œuvres me mettent dans un rapport de discipline avec le Seigneur. Je suis appelé à être un disciple, à me discipliner, mais si je ne me discipline pas, je peux être discipliné. OK, ça me rassure. J'ai la vie éternelle, puis Dieu agit avec moi comme un bon père agirait avec son enfant. Un bon père qui ne donnerait pas un serpent à son enfant si on lui demande du pain. Bien, Dieu va bien agir avec moi, comme un bon père. Prochain verset, on va reculer maintenant au chapitre 5. Voyez-vous, on est ici. On recule, puis on s'en va voir un peu qu'est-ce qui a été dit avant. Le gars, il couche avec la femme de son père. L'Église ne fait rien. Il laisse faire ça. Il ne rencontre pas pour dire « Hey, il y a de l'immoralité ici, puis ce n'est pas bien. Okay? » L'Église n'agit pas. Hein? Et Paul va dire qu'un homme, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc, il est perdu pour la vie éternelle. Regarde, il est immoral. Il n'y a pas des immorales qui rentrent au ciel. Ce n'est pas un élu. Alors, regarde le verset d'après. « Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Le gars, c'est un immoral. L'Église ne l'a pas corrigé, et là, c'est le temps de le corriger. Puis Paul dit qu'il soit livré à Satan. Donc, il sort de la couverture spirituelle de la protection de l'Église. Puis là, Satan peut comme le dévorer. Un peu comme si on prenait l'image d'une brebis qui est sortie d'un pâturage. Ce n'est pas une bénédiction d'être sans une Église. Donc, il faut trouver une Église où on peut progresser dans notre foi. Mais ici, le gars, il n'est pas juste en dehors d'une Église, il est mis dehors. Puis la Bible, Jésus avait dit que Dieu donnait de l'autorité, que ce qui était lié sur la terre serait aussi lié dans les cieux. Donc Dieu honore cette discipline-là, puis il laisse, comme un peu comme dans Job, il laisse le diable aller après la personne. Et le but encore, c'est quoi? Hey, le diable est après moi, il faut que j'aille, bien, crème, va-t'en dans une église, réconcilie-toi, remets-toi en règle. Puis, tu sais, c'est encore une fois la grâce. Tu sais, quand que Dieu lâche le diable après nous autres, c'est pour nous ramener dans le gouvernement de la grâce. Puis regarde même, il dit, « Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Le gars, il est châtié par l'Église. Il a couché avec sa belle-mère, il ne s'est pas repenti. Mais Dieu, il l'a sauvé parce qu'il l'a sauvé. Il l'a sauvé une fois pour toutes, c'est réglé. Et il va s'en occuper. Fait que là, on recule. Bien, regardez, après ça, on voit ici, les gens n'ont pas persévéré. On ne croit pas à la persévérance. On ne croit pas que ceux qui sont sauvés vont persévérer. On croit que ceux qui sont sauvés peuvent persévérer parce que Dieu va leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour vivre leur vie de piété et vivre une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui s'éloigne du péché. Dieu va tout faire ça pour eux. Mais on ne croit pas qu'ils vont persévérer. Hein? On croit parce qu'ici, ils n'ont pas persévéré, mais ils ont été disciplinés. Ils sont sauvés, mais ils sont ramenés à la maison avant le temps. On ne croit pas à la persévérance des saints, on croit à la discipline des saints. Prochaine étape. Donc, on avait les deux options et il y en a une troisième tranquillement qui a commencé à apparaître. Vous avez la vie éternelle. Prochain point. Et votre discipline en est une évidence. Et pour finir un peu sur une note positive, on regarde la ligne du temps, prochaine étape. On est allé voir dans le chapitre 11. D'abord, on a regardé dans le chapitre 15, tout autour du verset, si vraiment c'était vrai que si on ne retenait pas le message, si on s'éloignait, on aurait cru en vain. On était rassurés, ce verset-là ne nous parlait pas de ça. Ensuite, on est allé au chapitre 11 où, dans l'Église, il y avait du désordre. Le repas du Seigneur n'était pas suivi comme il faut, puis les gens ne s'examinaient pas eux-mêmes pour voir s'ils étaient dans le péché. Il y en a plusieurs qui étaient malades, d'autres qui étaient morts au milieu d'eux. Ensuite, on a reculé, on est allé au chapitre 5, puis on a vu un gars qui couchait avec sa belle-mère, qui était sauvé, puis que même s'il était dans l'immoralité, ça ne changeait rien à son salut, parce que ce n'est pas sa persévérance qui venait déterminer s'il était vraiment un sauvé. Puis, on a parlé de chapitre 3, et si tout le chapitre 3 nous parle des récompenses, que certains vont avoir des... Ah, justement, peut-être le chapitre 3, je pourrais... L'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Toi, là, puis moi, si on a accepté Jésus-Christ, on est l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette œuvre-là est parfaite, parce que c'est lui qui l'a faite. Il a fait une œuvre parfaite dans ta vie. C'est le fondement de ta vie. Ça veut dire que si tu passes le feu dans tout ça, il ne reste plus rien que l'œuvre de Christ. Par contre, dessus, tu vas bâtir sur ça, toi. Tout dépendant si tu fais des œuvres de foin, de chaume, de paille, qui sont toutes des choses qui poussent d'un sol que Dieu a maudit dans Genèse chapitre 3. Tout ce qui vient d'en bas va brûler, il ne restera rien. Les œuvres qui viennent de la terre, il n'y a rien qui va rester. Mais les pierres précieuses, l'or, les métaux précieux, c'est toutes des choses, quand tu lis Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 1, 2, il y a deux récits de la création, donc dans les deux récits, là, dans Genèse 1 ou dans Genèse 2. Est-ce que tu vois les pierres précieuses apparaître? Non, parce que Dieu les a placées là. Pam! Il les a pas comme, il a pas dit que la terre produise des pierres précieuses. Puis même si ça aurait été le cas, c'est juste en Genèse 3 que la terre a été maudite. Fait que ça aurait été encore acceptable. Mais les pierres précieuses, l'or, l'argent, c'est des choses que Dieu a déposées dans la terre. De la même manière, les choses que Dieu va avoir déposées dans notre cœur durant notre vie, c'est des choses qui vont aussi être récompensées avec Dieu. Les choses qui viennent de la terre, les choses qui sont charnelles et humaines, vont brûler. Mais tout ce que Dieu va avoir initié va être récompensé. Donc, c'est merveilleux. Es-tu déjà dans le chapitre 1, toi? OK, tu es déjà dans le chapitre 1. Tu peux avancer d'un clic de bord. Juste avant de lire le verset ici, qui est, je pense, notre dernier verset. L'Église de Corinthiens. Il y a de l'immoralité dans cette église-là. Les gens méprisent les autres qui n'ont pas les dons pareils comme eux. Il y a probablement des femmes qui essaient de se mettre dans des rôles de leadership ou de prendre autorité dans des temps de rassemblement. Il y a des frères qui s'amènent en cours sans régler leurs affaires un à un, comme deux frères devraient faire. Va voir ton frère en premier, puis après ça, prends un témoin, puis tout ça. Là. Au lieu de faire ça, eux autres s'amenaient en cours direct, ils se faisaient des griefs directement. Ils parlaient durant les rassemblements. Il y avait des gens qui parlaient en langue sans qu'il y ait d'interprétation. Ça, c'est du désordre. Quand deux, puis il y avait plus que trois personnes qui parlaient en langue. Puis ils ne parlaient pas un après l'autre. Ils parlaient les uns en même temps que les autres. Ça faisait comme un genre de bruit. Et c'est du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre dans 1 Corinthiens 14 qui va dire... Hein? Et donc, il avait tout ça. Il était loin d'être mature, mais il était vivant. Il était loin d'être mature, mais il était vivant. C'était une église qui ne corrigeait pas les problèmes en son sein. C'était une église qui grandissait, qui persévérait, qui allait devenir de plus en plus. Qu'est-ce que Dieu s'attend d'une église? Mais en attendant, elle était loin d'être mature, elle était loin de persévérer dans toutes les choses. Et pourtant, regardez au chapitre 1 ce qu'il leur dit. Il leur dit, vous êtes dans l'attente ou vous êtes de la... ici, c'est moi qui l'ai ajouté, là, mais ça leur dit qu'ils sont dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit aux Corinthiens, pour vous, c'est réglé. Il vous reste qu'à attendre le retour de notre Seigneur Jésus. C'est pas si vous avez tout fait correct, si vous persévérez correctement. Non, vous êtes déjà dans l'attente. Puis regardez la promesse qui est faite. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? C'est un fait établi. Ils sont dans l'attente du Seigneur. Ils ont une assurance présente. Tu peux revenir, Seigneur. Reviens n'importe quand. Je sais que je n'irai pas en jugement. Jean 5, 24, je suis passé de la mort à la vie, je ne viendrai jamais en jugement, c'est réglé, j'ai hâte de te voir, Seigneur, viens-t'en. Ils peuvent compter sur le Seigneur pour les affermir jusqu'à son retour, et c'est ça la doctrine, la vraie doctrine de la persévérance, c'est que Dieu, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est lui qui le fera. Philippiens 1, 6, 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est lui qui le fera. Il est fidèle, puis encore ici, il le dit, Dieu est fidèle. Mais pourquoi il y en a qui ne persévèrent pas? Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu devient infidèle parce qu'il y en a qui ne persévèrent pas? Bien, si je ne vais pas chez le dentiste est fidèle pour m'enlever mon mal de dent. Mais si je ne vais pas chez le dentiste, est-ce que le dentiste est devenu infidèle pour m'enlever mon mal de dent? Non, parce que quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et donc, la Bible nous dit que Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, si je ne me présente pas à lui pour qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée en moi, eh bien, je ne grandirai pas dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, mais à la fin, quand tout va être fait et dit, je vais quand même être transformé en son image. Mais le problème, c'est que je n'aurai pas les récompenses de cette transformation-là. Parce que c'est vrai que la nature pécheresse va être enlevée. C'est vrai que j'aurais pu ce péché-là qui me fait faire des choses que je ne veux pas, puis les choses bonnes que je veux faire, je ne peux pas les faire. J'aurais pu ça. Je vais être rayonnant de sa gloire. On va tous être rayonnants de sa gloire parce que c'est vrai que le manteau de notre incrédulité, c'est vrai que les saletés de notre vie passée vont être lavées, qui vont être enlevées complètement parce qu'il n'y a aucun pécheur qui peut rentrer dans la présence de Dieu avec son péché. Fait qu'on va tous avoir une robe de justice, mais nous ne rayonnerons pas tous de la même gloire parce que comme il a rayonné quand on était sur la terre, sur notre visage, ainsi nous, on va rayonner de sa gloire aussi pour l'éternité. Notre persévérance va affecter notre éternité, mais dans le domaine de la gloire qu'il nous a réservée et non pas sauvé, pas sauvé. Donc, le motto est tout faux. Le motto, prochain point. OK, regarde ici, vous avez la vie éternelle, juste avant, vous avez la vie éternelle, votre discipline est une évidence. Ensuite, l'assistance de Dieu vous donne la persévérance. C'est l'inverse. C'est pas tu persévères, tu finis par avoir de l'assurance que tu es sauvé. Mais non, j'ai de l'assurance que je suis sauvé. Et à cause de ça, je persévère. C'est tout l'inverse. Regarde. Le motto de la fausse doctrine, que j'appelle la fausse doctrine, ou la doctrine de l'insécurité éternelle, ou de la persévérance des saints, disait que plus je persévère, plus j'ai de l'assurance. Mais c'est tout le contraire. Plus j'ai de l'assurance, plus je persévère. Plus je suis sûr de comment Dieu m'aime, plus je sais que j'attends son retour, plus que je sais qu'il va me récompenser en fonction de ce que lui va avoir fait dans ma vie, crime, j'ai de l'assurance et puis je vais marcher dans cette assurance-là. Je veux terminer avec l'histoire de « It is well with my soul ». Vous vous rappelez de l'histoire du début? Savez-vous comment ce gars-là a fini? C'est Horatio Spafford qui est un de... Tu vas voir, tu tapes son nom, tu tombes sur des sites hyper réformés, des gens qui croient à la persévérance des saints, puis il utilise son histoire pour dire « Regarde! » Même s'il a fait des belles choses, ce n'est pas vraiment « It is well with my soul », c'est « It is not well with my soul ». Fait que là, il recompose son chant. Et là, les réformés, ils se font un plaisir, un peu comme moi, je me fais un plaisir de faire la partie adverse aujourd'hui. Ils se font un plaisir de dénoncer comment sa vie a fini. Lui, que son fils il est mort, ses cinq enfants sont morts. Hein? Une des accusations qu'ils font contre lui, c'est qu'il croit que Jésus est mort pour tous les hommes. Mais même pour Satan. Il est parti d'une théologie universaliste que l'enfer n'existe pas. Il s'est éloigné des enseignements qu'il avait crus. Il a commencé à faire une secte. Il a fait mettre dehors le pasteur Young de son église, puis ils ont fait bâtir une église sur son terrain, chez lui. Et ça semblait être un homme intègre, le pasteur Young, et puis toutes sortes de magouilles que le gars a faites. La secte, ça s'appelait les Spaffordites, ou les vainqueurs. Ils tenaient des meetings charismatiques. Ils ont une fois sanctifié des oranges pour qu'elles soient, parmi eux, la présence du Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire des manifestations de jappé, tomber sur le plancher. Des miracles pour guérir des malades et des rapports frauduleux concernant ces guérisons-là. Ils ont essayé, mais ils ont échoué à ressusciter un bébé. Il raconte des combats spirituels de sa femme en disant « Elle a été littéralement prise du plancher et levée dans les airs entre le plancher et le plafond et elle s'est battue contre le diable et elle a gagné. » Etc., etc., etc. Je pourrais dire, Il est sauvé? Il a mal fini? Ça, le gars là, qui est sur le bateau, là, il a perdu ses... On ne sait pas. On ne sait pas, il a mal fini. Exact. Par contre, s'il a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, et s'il s'en est éloigné, ce n'est pas sa persévérance ou son manque de persévérance qui lui a enlevé ce que Dieu lui a donné. Tout au long de ma série, on va regarder ces promesses-là qui nous sont faites parce que Dieu l'a dit, on peut être sûr qu'on a la vie éternelle. On va placer les œuvres où c'est à la bonne place, c'est-à-dire que les œuvres, comme on a parlé de la correction aujourd'hui, on a parlé des récompenses, donc ils vont avoir la place pour les œuvres aussi. On va fermer les yeux ensemble. J'aimerais ça ici qu'on réalise qu'il n'y a personne à la pointe du couteau. Personne n'est à la pointe du couteau que si tu ne marches pas convenablement, tu vas être perdu. Par contre, il y a un appel et celui qui appelle est saint. Et il te demande d'être saint dans toute ta conduite, mais il n'y a pas besoin de te menacer de t'enlever la vie éternelle pour te faire changer ta moralité et ta façon de marcher. Il va agir comme un père pour toi. Il va te conduire dans sa sainteté. Mais aujourd'hui, tu n'es pas à pointe du couteau. Pas en tout cas à cause des choses que tu as faites ou pas faites. Mais il y a un jugement. Il y a un jugement à venir. Puis tous les hommes sont appelés en jugement. La question est, est-ce que tu vas aller en ce jugement-là ou pas? Et oui, il y a un jugement. Mais ça ne dépend pas de tes œuvres. En fait, parce que nous avons tous péché, nous sommes tous condamnés à être perdus. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été puni à ta place pour que tu ne sois pas puni au jour du jugement. La seule chose qu'il te demande de faire, c'est de croire qu'il est Dieu, qui est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ, qui n'a pas péché, qui est mort sur la croix, qui a été puni pour toi. Si tu veux faire transaction avec Jésus, répète cette prière avec nous. Ça ne sert à rien de la faire plusieurs fois parce que tu manques d'assurance. Fais-la pas plusieurs fois parce que tu dis au cas où que la première fois, je n'étais pas sincère. Prie plutôt pour demander à Dieu qu'il te donne la certitude que tu as la vie éternelle. Continue à venir dans cette série pour écouter les versets, pour rassurer ton cœur, que Dieu détermine ta relation avec lui. Mais on va la faire quand même à voix haute, puis on la fait à chaque fois pour accompagner ceux qui la font. Mais ne la refais pas si c'est parce que tu es insécure puis tu penses que tu ne l'as pas fait comme pour la première fois. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es venu sur la terre dans la personne de Jésus, que tu es mort sur la croix à ma place pour être puni pour mes péchés. Je le crois. Je crois que tu es ressuscité pour me préparer une place. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur. Donne-moi la certitude que j'ai la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir les gens qui auraient fait cette prière-là pour la première fois? Alors, on va faire la Sainte Cène. Je trouve que le message a servi d'une bonne introduction pour prendre ce repas du Seigneur-là qui nous rappelle qu'on est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il a fait à la croix plus ce que je fais qui me sauve, mais seulement ce qu'il a fait à la croix avec son sang. Donc on va prendre les éléments, mais on ne les prendra pas tout de suite. Puis je vais...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.